RCF.
La mensuelle des déchets, toute petite ma poubelle, une émission présentée par Olivier Guillaume.
Toute petite ma poubelle, la mensuelle des déchets s'intéresse aujourd'hui à l'aventure plutôt singulière des repères café. C'est une idée qui fait son chemin depuis la Hollande et maintenant jusqu'en Nièvre. Un sujet préparé par Laurie Saulnier. Bonjour Laurie.
Bonjour Olivier.
Vous êtes, comme chacun le sait dorénavant, vous êtes chargée de prévention déchets, maître composteur au sein de la communauté de communes Loire, Nièvre et Bertrange. Et nous accueillons aujourd'hui dans le studio trois de vos grands témoins du jour sur cette émission.
Oui, tout à fait. On a une initiative qui s'est créée à Saint-Benin-d'Azy, donc c'était bien de les inviter pour qu'ils puissent témoigner de leur expérience. Et ensuite, on a une autre initiative qui va se développer à la Charité. Donc voilà, Monsieur Niblot est là aussi pour en parler.
Nous tendrons également l'oreille pour entendre un témoignage de 40 secondes qui vient d'ailleurs. Vous êtes allé en reportage ?
Oui, j'ai participé au deuxième Repair Café de Saint-Benin-d'Azy où j'ai interviewé une bénévole hôtesse voilà, qui aide ces Monsieur Dehaut et Monsieur Tardiva dans leur développement de l'initiative.
Présentons nos témoins présents dans ce studio. Nous avons James Niblot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'initiative du Repair Café qui va naître sur la Charité sur Loire. Les deux premiers rendez-vous, le 12 mars de 14h à 17h et puis un second rendez-vous déjà programmé le mois suivant, le 9 avril, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Bon. Ça va dérouler. Chez anciennement chez Babette et Eva, qui s'appelle maintenant la Dolce Vita.
Un Repair Café a d'ores et déjà démarré en 2017. Vous êtes à l'initiative de la création de ce Repair Café à Saint-Benin-d'Azy. Jérôme Tardiva, bonjour.
Oui, bonjour.
Et à vos côtés, Paul Dehaut, bonjour.
Bonjour.
Le Repair Café de Saint-Benin-d'Azy, c'est le premier à naître sur le territoire nivernais ?
Ben oui, et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui nous a étonnés, parce que c'est, il y a un moment, c'est quelque chose quand même qui vient de Hollande, mais qui finit par quand même descendre jusque
ça
un peu plus au sud.
Ça essaime sur de nombreux
voilà.
territoires à travers
et
l'Europe.
Suite à une émission qu'on a vue sur la 5 ou sur Arte, moi personnellement, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose et on va se rapprocher pour venir renforcer un peu cette idée. Et finalement, il n'y avait rien sur la Nièvre, à notre grand étonnement. Alors, je me suis dit, bon.
Et vous l'avez créé, hein. C'est lancé depuis janvier
dernier,
2017. Déjà deux séances. On y revient dans quelques instants. Vous nous brossez l'histoire de ces Repair Café, Laurie.
Repair Café, c'est une initiative qui a été lancée en Hollande, si je ne me trompe pas, par une journaliste. Ils ont un peu créé comme un guide pour pouvoir développer cette initiative dans tous les territoires européens et au-delà. Et donc le but du jeu, c'était de réparer, voilà, apprendre aux gens à réparer eux-mêmes leurs objets pour éviter de les jeter, aussi créer du lien et de la convivialité.
Voilà, on ne fait pas que réparer.
Voilà, c'est aussi un moment très convivial comme j'ai été
on
à Saint-Benin-d'Azy.
On est en relation avec
café,
les uns
voilà,
les
c'est
autres
très sympa.
Autour d'un café ou autre boisson, évidemment. Repair Café, c'est une fondation aussi, hein, désormais.
Voilà, c'est une fondation, une association internationale où on peut adhérer justement et ça nous aide aussi à développer les initiatives locales.
Et qui diffuse son mode d'emploi.
Voilà, dans le guide, il y a toute la communication, les chartes, des documents pour savoir ce que vous aviez réparé.
Oui, il y a des fiches. Bon, il y a des retours, évidemment, d'expérience. Alors bon, c'est vrai que, notamment au niveau international, bon, il y a pour l'instant, au niveau des fiches pratiques, avec, vous savez, les tutos, bon, c'est encore relativement faible. Mais je pense que c'est plus par rapport au fait que ça prend beaucoup de temps. Moi, j'en ai déjà fait des tutos de réparation.
Donc, ça a permis de lancer correctement l'initiative.
Alors,
Disons
qu'il y a tout de suite un cadre,
ouais,
donc, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect quand même légal de la chose. Il y a quand même quelques questions à se poser. Et d'ailleurs, James se les posait. Moi, j'ai été contacté depuis par pas mal de gens qui sont un petit peu frileux par rapport à ça, parce qu'ils se demandent quelles sont les implications,
ouais.
Si jamais ça se passe mal, si jamais on répare mal quelque chose, si jamais ensuite il y a un souci, à quel niveau notre responsabilité peut être engagée. C'est aussi par rapport de la communication, c'est par rapport aussi à l'esprit, parce que c'est vrai que bon, il y a une charte, il y a un esprit, c'est fort. Forcément sans but lucratif. Voilà, il ne faut pas que ça devienne non plus une concurrence directe à des gens qui sont réparateurs agréés. Et puis voilà, quoi.
Alors, ça vient aussi s'intégrer dans nombreuses actions aussi d'ores et déjà développées par la communauté que vous représentez, Laurie.
Oui, nous, en tant que collectivité, on a été élu territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on veut aider James et qu'on a
lancé son initiative,
en l'occurrence
sur la Charité sur Loire.
Sur la Charité, mais après, le Sienne et l'agglomération de Nevers, qui sont également territoire zéro déchet, ont été contactés par des personnes pour aussi développer des repair cafés. Donc il y a aussi 2-6, vous m'avez dit, l'USI.
Oui.
Et sur Nevers, il y a déjà 2 personnes aussi. Donc qui vont, justement, la collectivité va essayer de les regrouper pour refaire un Repair Café, pour éviter qu'il y ait plusieurs initiatives, qu'il y ait plutôt des grosses initiatives qui se lancent.
Pourquoi faire naître, pourquoi créer un Repair Café sur nos territoires?
Je pense que ça répond à une demande, au final. Moi, dans le cadre de mon travail, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'objets qu'on ne pouvait pas économiquement, on va dire, réparer. Quand vous annoncez un tarif de main-d'œuvre de 40 euros pour un objet qui vaut 29,9 euros aujourd'hui, c'est décourageant pour les gens de le faire réparer, et ça je le comprends.
Entre guillemets, ce n'est pas rentable.
Non, ce n'est pas rentable, voilà, c'est malheureux.
Économiquement.
Voilà, disons rentable. Que nous, on ne peut pas faire cadeau de notre main-d'œuvre.
Oui, parce que vous-même, vous êtes commerçant.
Voilà, tout à fait. Oui, oui.
C'est on peut le dire.
On peut le dire, oui, j'ai pas honte. J'en suis même plutôt fier. Donc ça répondait.
On peut se poser la question de la concurrence.
Bien sûr.
Vous ne le voyez pas du tout comme ça.
Mais non, pas du tout. Étant commerçant moi-même et en lien avec d'autres, mais on est tous d'accord pour dire que on ne peut pas facturer une heure de temps passé à une personne pour un objet qui vaut 29 euros. Donc, et on se met à la place des consommateurs et c'est normal. Et en même temps, quelque part, on culpabilise parce qu'on sait très bien que les objets peuvent quand même être réparés et qu'on ne peut pas travailler gratuitement. Et donc, le Repair Café nous permet, m'a permis à moi en tout cas, de m'investir indépendamment de mon métier.
Partager vos compétences.
Voilà,
partager à la communauté.
Exactement, c'est ça. Et puis c'est valorisant, c'est agréable. Et puis ça crée des liens. Et puis ça crée une émulsion. Et puis c'est pas dit que des gens qui viennent au Repair Café viennent pas non plus acheter plus tard dans mon magasin. Et
c'est pas incompatible.
Non, c'est pas incompatible du tout.
Non, mais je dis qu'au contraire, c'est vrai que Jérôme, là, moi, faut quand même lui rendre hommage. En plus, il représente l'association des commerçants et même des artisans et des professions libérales sur toutes les Amognes. Donc, c'est vrai que c'était aussi pas évident de tenir ce type d'engagement, de mettre à disposition un lieu, le fait qu'il soit éclairé, chauffé, internet le cas échéant, mettre à disposition c'est aussi une partie de son outillage. Je trouve ça formidable et je crois que les gens qui vont venir le voir, enfin qui vont venir à ce Repair Café, vont se dire c'est quand même quelqu'un qui fait son boulot honnêtement, mais qui a aussi derrière aussi une éthique, une façon d'aborder la consommation qui est un peu cohérente. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que derrière, les gens, de toute façon, je pense que ça se fait naturellement, vont nouer une relation de confiance qui va peut-être aboutir à ce qu'ils soient choisis pour certains achats ou certains chantiers.
Alors, c'est pas le but premier, hein, attention.
Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas comme ça.
J'ai pas fait ça pour ça.
Non, mais moi, je trouve que ce serait un juste retour des choses.
Après,
finalement.
Écoutez.
De même que quand ça se passe dans un café, il y a des consommations, les gens viennent prennent l'habitude de venir, et pourtant, ils sont pas directement sur le secteur.
Non, vous voulez dire par là que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
C'est
exactement.
Ça. La relation gagnant-gagnant, c'est ce qui manque à notre société aujourd'hui.
Mais l'écologie, bien comprise, c'est ça. C'est pour ça que moi, je prône depuis très longtemps, et je me suis fait des ennemis d'ailleurs à cause de ça, ce qu'on appelle l'éconologie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça peut être aussi l'occasion de développer des secteurs d'activité, de créer des emplois et finalement de continuer à faire tourner la machine, quoi.
Quel genre d'objets peuvent être accueillis par ces Repair Cafés, par ces cafés de réparation
Par exemple, à la Charité-sur-Loire, le 12 mars, on a des gens, des bricoleurs bénévoles qui vont en fait être capables, on espère, de réparer les petits électroménagers, les petits objets en bois, par exemple une chaise, une tabouret, des choses comme ça, même donner des conseils si quelqu'un arrive avec une photo d'un objet à la maison qu'il voudrait réparer mais il manque la connaissance ou le savoir-faire, donc comme ça il peut demander l'avis, le conseil. Mais aussi on va voir donc électroménager, les vélos, même les vêtements. Donc les gens qui peuvent peut-être donner des conseils, mais aussi...
Oui, parce que l'idée, c'est de faire avec la personne, hein. c'est
oui,
pas de faire à
sûr.
Sa place.
Non, pas du tout, c'est pas commercial, c'est un lieu convivial, où quand on entend, on a demandé notre voisin pour le savoir-faire, pour réparer quelque chose, et on manque ça à ce moment. Et donc, c'est exactement ça, c'est un échange.
Donc, des objectifs nombreux, Laurie, on peut les lister rapidement.
Donc, le but du jeu, c'est d'échanger, donc, comme on dit, les savoir-faire, apprendre voilà, à lutter contre l'obsolescence programmée, comme Monsieur Deau disait, donc développer la réparation, faire évoluer les modes de consommation, arrêter d'acheter, jeter, acheter, jeter. Voilà, on peut donner une seconde vie à nos objets.
Mais parce donc, que les objets arrivent en grand nombre hein, dans les déchetteries. Hein,
oui, oui, ça, enfin, on a une quantité astronomique de produits qui pourraient être réparés.
Et du coup, on est obligé de cogiter, trouver des idées voilà, malines pour
exactement, même pour les vélos. Enfin, des fois, il faut juste gonfler les pneus. Enfin, ils jettent vraiment des choses, mais c'est affolant. Donc, le but du jeu, c'est aussi de sensibiliser les gens à voilà, changer leur mode de consommation, de comportement.
Et je pense que comme c'est pas rentable pour une réparateur professionnel de prendre en compte, on a dit, les petits objets électroménagers, mais moi personnellement, je viens de l'autre côté, j'ai pas de savoir-faire de réparer quelque chose.
Oui, qui sont les experts d'ailleurs ? Vous les trouvez où, les experts ? Vous les mobilisez comment ?
J'ai passé un deux mois à publier des flyers dans la communauté de communes.
Donc, vous avez diffusé l'information.
Voilà. D'accord. Et donc, mais c'était finalement, c'était parmi les amis, les liens personnels qu'on trouve des gens qui ont cette savoir-faire.
Et à Saint-Benoît d'Asie ?
Oh ben on est tous les deux entre guillemets si ce n'est expert en tout cas un petit peu enfin
débrouillard
débrouillard pour la plupart autodidacte mais c'est vrai qu'à force de réparer enfin il y a un moment moi je me rappelle quand j'étais gamin bon les voitures on les réparait nous-mêmes les mobilettes on les réparait nous-mêmes enfin bon parce que déjà c'était un problème d'abord que c'était un challenge et puis c'est un problème d'argent on n'avait pas trop d'argent et il fallait bien qu'on le fasse et on y arrivait. Alors c'est vrai que maintenant tout est fait pour que ce soit très compliqué. Alors maintenant rien que pour démonter le moindre objet électroménager.
Et puis très encadré légalement. On se pose la question de la sécurité éventuellement.
Alors voilà, non mais alors ça c'est encore un autre aspect. Mais justement, il y a la majorité des objets actuellement sont faits pour ne pas pouvoir être démontés hors centre agréé. Alors c'est avec des on voit ça pour les smartphones, mais c'est vrai aussi pour l'électroménager. Vous avez des tas de fixations qui sont complètement biscornues, qui sont cachées, etc. Que le néophyte, et pour lui, il est comme une poule qui a trouvé un couteau. Hein. Il se dit, mais c'est pas possible. Alors l'idée, c'est quand même, c'est déjà de montrer aux gens, leur apprendre. Alors, évidemment, des consignes de sécurité aussi. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On ne va pas ouvrir un appareil électrique en restant branché. S'il y a des gros condensateurs, il faut déjà savoir qu'il faut les décharger parce qu'autrement, on se prend une bonne bourre. Et puis après, on leur montre que les choses qui sont normalement considérées comme étant indémontables le sont, en fait. Donc déjà, quand les gens passent ça, on leur donne les consignes de sécurité. On leur montre comment finalement dépasser le stade du démontage et puis aussi du démontage propre. Parce que on peut démonter les choses et qu'après ce soit pas remontable parce que ça n'aura pas été fait en prenant le soin nécessaire. Bon, alors ensuite, on leur apprend à tester les choses. Bon, pourquoi ça ne marche pas ? À essayer de rentrer dans une forme logique qui a été celle du constructeur, bon, et dire voilà, s'il y a tel symptôme, c'est sans doute à cause de ça, etc. Donc c'est vraiment une culture, c'est un passage de savoir-faire, mais qui est, enfin, c'est des choses qui devraient, enfin, ce sont des choses qui devraient pratiquement être, je pense, être enseignées dans le cadre d'un cursus scolaire, au moins à partir du collège. Normalement, il y a des cours de techno, ça devrait rentrer là-dedans aussi. Ça devrait être intéressant de pouvoir semer ça. Bon, dès cet âge-là.
Acquérir une certaine autonomie dans sa vie
absolument.
Quotidienne.
Moi, ces choses-là, moi, je les ai apprises de mon père. Hein.
Régulièrement, oui. Ouais. Voilà. On va se rendre sur le terrain. On reviendra effectivement sur les reportages et vous donnerez les informations pratiques pour celles et ceux qui seraient intéressés pour rejoindre les Repair Cafés déjà existants sur le territoire nivernais. Ce sont les premiers. Peut-être d'autres vont-elles voir le jour.
Oui,
on va se rendre sur le terrain. Laurie, vous y êtes allée sur un Repair Café situé effectivement à Saint-Benoît. D'Asie, c'était la deuxième session, je crois, que vous êtes allé observer. Vous y avez fait une petite rencontre.
Oui, c'était le 11 février, donc à Saint-Benoît d'Asie, où j'ai interviewé donc
une participante.
Une participante, enfin, elle est aussi bénévole, hôtesse, elle accueille aussi les gens. voilà, le 11 février, pour participer à son expérience, savoir comment elle voit le Rupert Café, ce qu'elle voudrait par la suite.
Eh bien, reportage dans notre émission à présent, dans toute petite Ma Poubelle, la mensuelle des déchets. Voici le collectage que vous nous avez rapporté.
Bonjour, vous vous appelez comment ?
Sandrine.
Alors pourquoi êtes-vous entrée dans cette démarche de Rupert Café ?
Moi, je viens simplement pour participer, donner un petit coup de main, parce que l'idée me plaît, voilà.
Et donc l'idée, c'est ça rentre dans vos convictions personnelles ?
Oui, tout à fait. C'est l'idée du recyclage, l'idée que les objets aient une deuxième vie, font partie tout à fait de nos convictions familiales.
Et qu'est-ce que vous espérez pour le développement du Rupert Café ?
Qu'il s'agrandisse, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent, qu'on ait de plus en plus de bénévoles qui veuillent venir participer pour réparer. Voilà, qu'il y en ait peut-être d'autres dans la Nièvre qui se développent, parce que l'idée est intéressante.
Laurie Saunier, racontez-nous ce que vous avez pu observer sur ce Rupert Café, le premier à voir le jour sur le territoire nivernais, donc c'est à Saint-Benin-d'Azy, depuis janvier dernier, en 2017.
C'était très intéressant de voir justement travailler donc, les bénévoles experts auprès des gens, de leur apprendre. Donc, il me semble que vous avez réparé un Thermomix quand j'étais là. Le monsieur était très content.
Le fameux Thermomix.
Oui, mais j'ai passé plus d'une heure et demie. Et c'est vrai qu'on n'a pas lâché l'affaire. Mais c'est bien parce qu'en plus, le monsieur en question, il avait quand même des notions de bricolage. Mais visiblement, tout seul...
Mais certainement très attaché à son Thermomix.
Oui, complètement. Et il m'a expliqué que, franchement, il servait quasiment de ça pour fabriquer ses aliments et que ça lui manquait vraiment, quoi.
Oui, parce qu'on fait tout avec le Thermomix, c'est bien connu.
Oui, effectivement. Alors, c'était un vieux Thermomix.
Oui,
c'était
vieux,
vraiment l'ancienne génération. Voilà, c'est pour ça qu'on a pu mettre les mains dedans.
Mais d'ailleurs, il a dit qu'il allait revenir pour
le plaisir.
Pour le plaisir et puis pour apprendre.
Manger des chouquettes.
Et qu'il ne se sentait pas hyper compétent dans un certain nombre de domaines, mais que franchement, ça l'intéressait de venir apprendre et se perfectionner et nous aider, quoi.
C'est la projection du film Demain, je crois, qui a déclenché l'envie de...
Oui, en fait, c'était...
sur le territoire de la Charité-sur-Loire.
Il y a plus d'un an, j'ai vu le film de Demain et j'étais tellement inspiré en regardant tout autour de moi dans les salles de cinéma. Il y avait tellement de gens qui ont le même sourire, il y a un lien, il y a quelque chose qui se passait pendant ce film. Donc j'ai commencé une collective qui s'appelle Demain 58, qui est un site internet Facebook Demain 58. Et à partir de ce moment, on a fait plusieurs discussions chez BATIPS, à Charité-sur-Loire, où les gens sont venus pour discuter les solutions qu'on peut faire dans notre territoire.
Et donc, vous avez confirmé cette envie collective de faire quelque chose.
Exactement. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs groupes qui partaient de plusieurs thèmes. Et donc, moi, je vais partir sur l'idée de le Rupert Café. Parce que moi, personnellement, je viens de l'autre côté. Je n'ai pas de savoir-faire de réparer des électroménagers ni d'autres choses. Donc, moi, on a des gros besoins. Il y a plusieurs mondes qui n'ont pas forcément suffisamment d'argent pour réacheter quelque chose. Si moi, on a acheté quelque chose sur une grande surface qui casse ou abîme. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai trouvé cette idée géniale. Et j'ai trouvé l'idée en cherchant sur Internet.
Oui, mais c'est compliqué à mettre en place, à faire net concrètement.
Pour trouver les bénévoles, c'était un petit peu difficile. Et comme j'ai dit, c'était plutôt le lien personnel avec les voisinages et des gens que je connaisse. Donc,
voilà, on sollicite les premiers cercles et puis après, on verrait bien.
Exactement, ça, oui. Ouais. Donc, si c'est devenir un lieu convivial, vraiment chaleureux, voilà, les gens viennent de participer.
L'expérience de Saint-Benin-d'Azy, ça vous est très utile ?
Oui, ça m'a encouragé pour vraiment lancer dedans. J'ai déjà parti dans la publicité avant Saint-Benin-d'Azy, ils ont ouvert. Mais voilà, c'est vraiment poussé, encouragé par Laurie aussi. Donc,
on a un commerçant dans l'aventure de Saint-Benin-d'Azy. Est-ce que c'est le cas aussi du côté de la Charité-sur-Loire ?
En fait, on a les anciennes, les retraités.
Les retraités qui sont
retraités. Voilà, exactement. Okay. Mais pas forcément que... je pense qu'il y a beaucoup de... J'ai des autres bricoleurs bénévoles qui viennent parce qu'ils ont une connaissance dans un domaine, soit le vélo, soit le vêtement. Mais il faut dire qu'il faut devenir un bricoleur bénévole. faut pas être une professionnelle. C'est pas obligé. Faut avoir un petit peu plus de savoir-faire des autres quand vous avez pris pendant votre vie, vie quotidienne ou pendant votre vie, et d'avoir un besoin de partager ce savoir-faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Bah non, je ne peux pas devenir un bricoleur bénévole parce que je n'ai pas suffisamment de connaissances. » Bah, oui, vous avez, parce que moi, je ne peux pas. Donc, c'est plutôt ça, oui.
Allez, on fait un petit tour de table rapide. Hein. On rappelle les dates sur la Charité sur Loire. Première rencontre, ce sera le 12 mars.
Oui, c'est ça.
De 14h jusqu'à 17h. La seconde est déjà programmée à la date du 9 avril.
Oui.
Rappelez-nous l'adresse.
À la Dolce Vita.
D'accord. Rue Camille Barrère.
Rue Camille Barrère à la Charité-sur-Loire, 12 mars de 14h à 17h. Du côté de Saint-Benin-d'Azy.
Alors, c'est au 29 rue de la Badelle, à côté du magasin Intermarché. Donc, c'est dans mon magasin d'électroménager.
C'est chez vous.
C'est ça. Le premier samedi de chaque mois. Bon, c'est la règle générale. Après, les dates sont publiées sur le site béninois.
Mais le prochain, c'est le 4 régulièrement. Mars.
Voilà, le prochain, c'est le 4 mars, tout à fait.
D'accord. On vous offre la conclusion, Laurie. Racontez-nous ce que vous allez faire de tout ça.
Eh ben, j'espère que ces initiatives vont se développer partout dans la Nièvre et qu'on va pouvoir peut-être même créer un petit réseau local pour pouvoir échanger et que les bénévoles se manifestent et que les gens participent et qu'on puisse réparer davantage de produits et développer ces actions. Sur notre territoire et même ailleurs, si on peut donner envie aussi à d'autres personnes de se lancer, ça sera avec plaisir.
Et pourquoi pas avec le support d'une communauté telle que la vôtre ?
Bah, nous, on voulait l'aider à se lancer. Après, le but du jeu, c'est aussi d'initier ou d'aider et après qu'ils soient indépendants, quoi, qu'on puisse, se détacher et laisser les gens faire.
Mais vous regardez ça avec un œil très intéressé.
Voilà, hein. Très intéressé, ouais. On est là pour aider, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais.
Très bien. Alors, pour organiser son propre hypercafé, il y a un mode d'emploi que la Fondation Hypercafé peut offrir effectivement à ceux qui veulent se lancer.
Oui, il y a un kit qui est très très bien fait, dans plusieurs langues, mais évidemment en français. Et c'est vrai qu'il y a tout le matériel, donc ça fait quand même gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, de travail, et puis de tâtonnement, voire d'erreur. Et c'est aussi ça qui est intéressant.
Donc, on trouve ça sur Internet, hypercafé.org.
Exactement.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Merci pour vos témoignages. Merci aux témoignages également recueillis sur place sur le Ripper Café de Saint-Benin-d'Azy il y a quelques jours par vous-même, hein, Laurie Saunier. Je le rappelle, vous êtes chargée de prévention déchets, maître composteur au sein de la toute nouvelle communauté de communes Loire-Nièvre et Bertrange. Merci James Niblot.
Merci à vous.
Pour votre initiative et ce témoignage sur la charité sur Loire. On vous souhaite une belle réussite. Merci à ce duo fondateur du Ripper Café, le premier du nom dans la Nièvre, à Saint-Benin-d'Azy. Jérôme Tardiva et Paul Dehaut.
Merci de nous avoir reçus.
Puis rendez-vous dans 4 semaines à présent pour un nouveau sujet.
Oui.
Dans le cadre de cette série Toute Petite Ma Poubelle, la mensuelle des déchets en partenariat avec votre communauté. Merci Laurie.